Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Par les temps qui courent. C'est une émission qui a lieu tandis qu'une grève est toujours en cours à Radio France. La page de l'émission vous permet de nous écrire et je vous y encourage car nous nous ferons un plaisir de répondre autant que possible à vos questions à ce propos. Je peux vous renvoyer aux articles de presse, aux tribunes en tout genre qui sont parus, à des émissions de radio aussi et au site de la médiatrice de Radio France. Je dispose par ailleurs d'un compte Twitter personnel où le dialogue est évidemment ouvert, voilà qui est dit. Par les temps qui courent, c'est une conversation, elle dure une heure avec un ou une artiste tous les soirs et ce soir nous recevons Tamara El Saadi.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler papi.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent. Du sable dans les poches, cela peut peser lourd. Pour se délester, on le jette en l'air et voilà que les grains, avant de retomber sur le sol, viennent brouiller la vue. C'est parce que Yasmine ne peut plus lire qu'un ouragan, une tempête de sable de questions l'oblige à retraverser son histoire. Enfance, adolescence, jeune âge adulte, elle est faite d'un là-bas et d'un ici qui ne se conjuguent pas toujours harmonieusement. Le là-bas, c'est Bagdad, que sa famille a quitté, du moins physiquement. Le ici, c'est la France des années 90, où l'on écoute Mariah Carey, où l'on éprouve ses super pouvoirs devant Dragon Ball Z à la télévision, où l'on récite le verbe avoir à l'école jusqu'à plus soif, jusqu'à ne plus savoir quelle langue on parle, jusqu'à oublier l'arabe mais se faire éconduire au bureau de l'administration française pour une carte de séjour. Il y a beaucoup plus qu'une vie qui se déploie dans Place, votre dernière création. Il y a une impasse dans laquelle peuvent se reconnaître un grand nombre de personnes, à l'injonction d'appartenir à un endroit ou à un autre, à une langue ou à une autre, à une douleur ou à une autre. Vous répondez par une place possible qui semble exister davantage par addition que par soustraction. Bonsoir Tamara El Saadi.
Bonsoir Marie.
Votre dernière création s'appelle Place, après être passée par le dernier festival d'Avignon, après avoir reçu le prix du jury et le prix des lycéennes et des lycéens au festival Impatience 2018. Elle est en tournée, on peut dire dans toute la France.
Oui.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une très
J'ai envie de le dire avec les bras grands ouverts. Comme
vous
ça.
Faites ça bien, je regrette que les gens ne vous voient pas. Oui, oui.
Place est en tournée dans toute la France.
Oui.
Il y a un travail sonore assez important dans cette création théâtrale. On va parler du dispositif scénique, évidemment, de ce texte, de l'interprétation des comédiennes et des comédiens. Mais puisque ce son est présent, puisque la radio, comme ça, indique des signes d'espace, des signes de temps, des signes aussi, je pense, d'intimité, elle a quoi comme place dans votre théâtre et éventuellement dans votre vie, la radio ?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai grandi avec le son de la radio en fond, qui a colorié un peu l'air de mon enfance depuis, disons, le moment où on a quitté l'Irak. J'ai plus ce souvenir-là quand on a quitté l'Irak que quand on était en Irak. C'est plus la télé. Parce que en fait, il y avait les infos, c'était Radio Monte Carlo, je crois, que mes parents écoutaient quand on était en Europe, donc qui était en arabe, donc ils pouvaient avoir les infos en arabe. Et quand on était en France, donc on suivait ce qui se passait pour nous... Enfin, c'était très important ce qui se passait en Irak parce que aussi ça allait déterminer le fait qu'on allait pouvoir rentrer ou pas. Et en fait, du coup, moi j'étais petite et je comprenais pas. En plus, c'était les infos sont en arabe classique. Et je me rappelle que je jouais alors que ma grand-mère et mes parents, mon frère et ma sœur étaient vraiment immobiles, presque tétanisés autour de cette toute petite radio qui était au milieu. Et moi qui courais autour, enfin, je m'ennuyais quoi. Et en fait, c'est un son qui m'a accompagnée toujours. Et puis, en grandissant, c'était cette petite radio qu'avait toujours mon père avec lui le matin, quand il se levait, tout ça. Toujours Radio Monte Carlo, quoi. Et en fait, c'était c'est vraiment un son qui m'est très familier, même si je suis incapable de vous rapporter même une phrase que j'ai pu entendre. C'est juste quelque chose qui a colorié l'espace et la sphère intime pendant un très grand moment de ma vie, quoi.
C'était évident que place cette création théâtrale allait avoir cette dimension sonore qui est comme pas du tout lourde, ni massif, ni majoritaire comme travail, mais qui est suffisamment comme ça en continu pour que je me permette de vous en parler.
En fait, au-delà du fait que je voulais traduire quelque chose de sensitif que je connaissais et qui appartenait à mon espace familial, le son a pour vertu d'être présent-absent. Et la question de la présence-absence est présente à différents niveaux de la pièce, que ce soit dans certains personnages, certaines thématiques, etc. Et je me disais que pour traduire cette présence-absence, c'était aussi le meilleur médium, en fait.
Pourquoi est-ce que c'est important, justement, cette idée de présence-absence dans la radio et dans votre pièce? Par exemple, il y a des moments de chaises vides, il y a des moments d'énumération de noms comme ça qui semblent appeler, on ne sait pas qui, mais en tout cas des gens qui ne sont pas là. Et la radio, elle est aussi à cet endroit-là. Elle est dans une grande présence, mais sa matérialité étant un peu particulière, quoi. Les ondes, c'est pas rien, mais c'est pas très physique.
Ouais, c'est pas très physique. Mais en fait, elle est
ou alors c'est hyper physique, mais c'est pas très corporel.
Elle est très peu. En fait, on a travaillé avec Fabio Meschini, qui est le créateur son du spectacle, sur une question de perceptibilité. C'est que l'idée, c'est que les gens ne soit pas complètement sûr d'entendre, mais il y a un truc qui est là, qui n'est pas là. Donc voilà, c'était vraiment travailler sur le fil, la sonorité, en tout cas, sur la question de la radio, parce que la sonorité apparaît par d'autres portes dans la pièce, mais en tout cas, sur la question de la radio, oui, et elle est toujours associée à l'espace familial. Et la présence-absence, elle est aussi dans l'incarnation du personnage du père, qui semble être présent, mais qui n'est pas là. Enfin, en tout cas, les membres de la famille ont l'air de craindre sa présence, alors qu'il ne semble pas se manifester. Le comédien qui le joue, Roland Timsit, passe à peu près sur une heure et demie de la pièce, une heure et quart, assis, sans bouger. Je salue sa performance, il nous écoute.
Sans parler
et sans bouger. Et en fait, ça déjà, parce que ça, je voulais vraiment traduire cette figure du père dans les cellules familiales, en tout cas celles que je connais, la mienne, et d'autres que j'ai pu entrepercevoir auprès de mes proches, en tout cas en Irak, de la figure masculine paternelle qui est un peu là sans être là, qui représente une forme d'autorité. C'est un peu l'État, en fait, c'est un peu le monopole de la violence. C'est-à-dire que c'est vraiment une figure qui surplombe, qui fait peur. On ne sait pas trop ce que c'est, on a juste peur qu'elle se réveille, quoi. Donc c'était aussi cette présence-absence, elle est là. Et puis
autant
sûr,
que l'on attend qu'elle se réveille, parce qu'il y a quand même toute une organisation de l'attente autour de son immobilité. À chaque fois, ce père-là, on se dit que ce serait peut-être possible de lui parler.
Oui. Et puis c'est surtout aussi toute la surface de projection, du coup, qu'il constitue. Parce que du coup, sur un espace présent-absent, une immobilité, en fait, on peut se raconter beaucoup d'histoires. Et en fait, j'avais aussi un peu envie d'inclure le spectateur dans tout ce qu'il pouvait projeter, parce que pendant longtemps, les spectateurs se projettent plein de choses. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il n'est pas violent? Qu'est-ce que c'est? Ça m'amuse beaucoup de les activer comme ça. Et puis aussi, c'était en lien aussi avec cet écho de la présence-absence de quand on quitte un pays dont on est issu, ben en fait, il est là et pas là avec soi, en permanence aussi. Bon voilà, en fait, ça se décline beaucoup, cette thématique, dans toute la pièce.
Est-ce que vous nous diriez comment est-ce que vous avez choisi ce titre, Place?
Comment je l'ai choisi? En fait, c'est un peu comme l'histoire qui s'écrit, que j'ai écrite. Il s'est un peu imposé à moi tout seul. J'ai l'impression que quand on écrit des choses, on est un peu une courroie de transmission. Il s'agit d'être dans un espèce d'état de disponibilité, et puis l'histoire se révèle à vous, c'est comme une enquête. Et en fait, le mot m'est parvenu tout seul. Il s'est imposé de lui-même.
Sans article?
Non, sans article. C'est drôle parce que je me rends compte que les autres pièces que j'écris, pareil, c'est toujours sans article. Alors allez savoir pourquoi, je sais pas. C'est une énigme. Et en fait, alors moi je me suis questionnée parce que bon, finalement cette pièce, elle décrit les mécanismes d'assimilation. Le fait de se sentir toujours encombrant, pas au bon endroit. Donc pas au bon endroit, donc où est ma place, la place. Et puis en fait, finalement, découvrir qu'une place, c'est un processus, on n'est jamais, c'est jamais quelque chose de figé. Alors on met du temps à le comprendre qu'en fait, qu'est-ce que c'est se sentir à la bonne place. Aujourd'hui, moi je me dis que c'est simplement peut-être juste aimer, quand on aime, on se sent à la bonne place, sans trop se poser de questions. Bon, voilà.
C'est d'ailleurs ce que dit l'un des personnages de votre pièce, qui est amoureux, et qui dit, en fait, en face de toi, qui adresse à l'une des faces de la personnage principale, quand je suis avec toi, je me sens à ma place.
Oui, il y a ça, il y a par rapport à la personne qu'on aime, mais je pense que c'est pas que ça. Je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on est en état d'aimer, c'est-à-dire quand je travaille, j'aime fondamentalement ce que je fais.
Moi aussi.
Eh ben, on se sent à la bonne place, non? On se pose pas trop la question, non?
On s'en pose pas mal, mais en effet,
pas celle-là. Pas si on est à la bonne place, parce qu'on est trop occupé à aimer ce qu'on fait. Voilà, je crois que c'est ça m'a permis de comprendre ça.
Il y a une romancière qui avait mis un « là » devant « place », mais ce n'est pas de ce roman-là, de ce roman « La place » d'Annie Ernaux, qu'on va tout de suite discuter, peut-être. Mais en 2008, en tout cas, au micro d'Alain Finkielkraut, elle parlait des années.
Qu'est-ce que mon histoire? Où est mon histoire? Qu'est-ce qui a fait que je suis moi à différents moments du temps? Ou bien est-ce moi? Ou bien était-ce moi? Suivant la phrase de Molly Bloom à la fin de Ulysse. Et c'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre par l'autobiographie dite traditionnelle, c'est-à-dire en partant de ses événements propres, de ses lieux de naissance, en parcourant le temps au travers du fil simplement de ma propre vie, avec le sentiment que je ne pouvais pas, en quelque sorte, sortir du temps et lui donner une forme à cette vie vécue qu'en sauvant en même temps ce que j'appelle aussi ma circonstance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le terme qu'on employait autrefois en grammaire, les compléments de circonstance, c'est-à-dire le complément d'accompagnement, de lieu, de temps, etc. C'était de sauver en même temps le monde traversé, puisque ce monde-là, il me semble que j'en ai fait toujours absolument partie intégrante, soit dans l'opposition, soit dans l'adhésion.
À la fois se demander ce qu'on est, ce qu'on a été, si on a toujours été la même personne, et en même temps quel monde on a traversé. Annie Ernaux parle de sauver quelque chose. Est-ce que c'est un mot que vous emploieriez, vous, pour place?
Sauver quelque chose, c'est une bonne question. Peut-être. Je me la suis jamais posé cette question. En fait, je sais que ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment d'écrire une opération comme de destruction et d'autodestruction. Est-ce qu'il reste quelque chose à sauver? Je sais pas. Je saurais pas vous dire, peut-être. Peut-être que j'ai cherché à sauver quelque chose. Ou en tout cas, essayer de raconter que j'aimerais sauver. je sais pas s'il reste quelque chose à sauver, en vrai. En fait, c'est encore une fois, je pense qu'on est très mouvant. Moi, mon arabité, je l'ai tuée. J'ai été conduite à le faire et j'en étais aussi complice. Peut-être qu'en écrivant cette pièce, j'ai un peu essayé de la sauver, peut-être.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des êtres dans cette pièce-là qui essayent de sauver des bouts d'eux-mêmes, qui se battent pour le faire. Je parlais d'un ici et d'un là-bas qui se conjuguent très rarement harmonieusement, mais ça vaut pour cette jeune fille Yasmine, mais ça vaut évidemment pour ses parents, ça vaut peut-être encore plus pour des frères et sœurs, des manières d'avoir des bouts en soi qu'on essaye de sauver, mais peut-être que c'est pas la bonne chose à faire. Place raconte beaucoup ça. Comment on fait pour se détacher de certains contextes? Y rester quand même parce qu'on ne peut pas faire sans. Il y a un moment donné, une des femmes, une des comédiennes dit « Mais moi, je ne peux pas grandir sans enfance. Enfin, ce n'est pas possible. »
Oui, alors en fait, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Je fais un peu une digression pour répondre à votre question. C'est parce qu'en fait, je pose beaucoup le terme d'intégration et celui de l'assimilation. L'assimilation, c'est pour moi un processus comme d'évincement. C'est une culture qui en interdit une autre. C'est un conflit, c'est une tension. Cette mise en tension crée ces dualités, ces renoncements. C'est tout d'un coup, on nous met face à un choix où c'est comme si notre condition d'être dépendait de ce choix. Ce qui est en fait une fiction, c'est une erreur. Alors que l'intégration, pour moi, c'est une rencontre, c'est une mutualisation des recherches. C'est une mutualisation des richesses, pardon.
Oh, mais c'est très beau, des recherches.
Recherche, mutualisation des recherches, c'est drôle, c'est lapsus. C'est super beau. C'est une mutualisation des recherches.
Ben oui.
Aussi. Et alors, du coup, en fait, qu'est-ce qui nous fait choisir, sauver, devoir sauver des bouts de soi? C'est parce qu'on est face à un espace qui vous met sous une injonction de choix. Si on est dans un espace, majoritaire, dans un extérieur qui vous accueille avec tout ce que vous êtes, la question de sauver ne se poserait pas. Donc si on est déjà face à ce questionnement de, face à cette question de sauvetage, c'est qu'il y a bien déjà un problème et une mise en tension, en fait. Voilà. Et en fait, du coup, moi, j'ai expérimenté pas l'intégration, mais l'assimilation. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à la distinction de ces deux termes.
Et c'est quelque chose qu'on traverse avec cette jeune femme qui commence très dissociée. Au début de la pièce, deux parties d'elle-même s'affrontent, peuvent discuter par le prisme d'une petite fille qui leur adresse des questions à ces deux moi comme ça qui s'opposent. Ensuite, les âges de la vie défilent, l'école, la cour d'école, les colibets, la difficulté de la rencontre amoureuse, de la rencontre amicale, de la rencontre tout court avec le monde, avec la vie, avec la pensée, avec la lecture. Pourquoi est-ce que cette pièce commence à un moment donné où le personnage ne peut plus lire?
Alors en fait, c'est donc Yasmine, il y a Yasmine 1 et Yasmine 2, sa version arabe et sa version française. En gros, la scène d'ouverture après le prologue, c'est la Yasmine 1 qui est la version arabe, qui ne parle pas en arabe, qui parle dans une espèce de grommelot. Et Yasmine 2, la version française, qui exprime le fait qu'elle ne sait plus lire. En fait, j'ai voulu un peu décrire un moment en fait où quelque chose d'essentiel où nous commence à disjoncter parce qu'on a maltraité, on a voulu peut-être faire taire quelque chose qui nous est originel. Et en fait, c'est pour ça que c'est un enfant qui donne la voix. En fait, cet enfant me demande toujours mais qu'est-ce que c'est? C'est un thérapeute? Je dis pour moi c'est juste le symbole de l'enfance parce que je crois que à l'enfance, on ne peut pas mentir. Un enfant ne peut pas lui mentir, même si de raison à raison, on lui ment et dit oui. Son corps est trop perméable au mensonge, il sait. Et donc du coup, le fait que ce soit un enfant qui explique à Yasmine 2 qu'elle a besoin un peu d'aller rechercher cette part qu'elle a aliénée, si elle veut retrouver sa capacité totale à maîtriser les mots, en fait, parce que c'est une question de maîtrise des mots, la lecture, maîtrise des lettres, du déchiffrage de cette culture à laquelle elle prétendait tant. Pour moi, c'était essentiel que ce soit un enfant qui dise ça. Et puis, on part en flashback. Au début de la pièce, il n'y a que Yasmine 1, donc à l'enfance, cette version arabe, hop, qui coexiste dans la sphère familiale. Elle est confrontée à l'école. À l'école, elle a besoin de survivre et elle convoque un peu sa version française, qui est en fait son principal allié, qui l'a fait entrer dans la culture française avec... qui lui permet de survivre et de rencontrer cette culture dans toute sa beauté aussi, voilà, dans tout ce qu'elle... Enfin, c'est pour ça le poème d'Aragon, etc. Et puis, au bout d'un moment, ces deux unités coexistent et puis elles commencent un peu à se frotter jusqu'au moment où l'une finit par évincer l'autre. Et là, j'ai essayé de mettre en scène des mécanismes de violence symbolique, comment on devient raciste contre soi et comment, en fait, cette version française qui a été un peu construite de toutes pièces finit par vouloir éteindre l'autre, quoi. Voilà. C'est pour ça que cette dualité traverse la pièce.
Et c'est pour ça que la question de l'enfance, pour ce que vous dites d'un aspect de vérité que peut réclamer l'enfance, mais aussi pour ce qu'on disait tout à l'heure de qu'est-ce qu'il y a à sauver, de quoi l'on peut se détacher, qu'il y ait exil ou pas, qu'il y ait migration ou pas, le lien à l'enfance est de toute façon un endroit de questionnement, peut-être de retrouvailles avec les choses essentielles. Il y a beaucoup de choses qui sont à hauteur d'enfance. On va écouter un extrait d'un Mi Magnétique.
Avec un nouveau coup de semonce adressé à l'Irak. Évacuez le Koweït sans condition, rendez leur liberté à tous les Koweïtiens.
C'est Saddam Hussein qui veut avoir tout le pipeline de pétrole, puis il veut avoir toute l'Arabie pour lui tout seul. Alors il prend des gens en otage et puis tout ça.
Il relâche les otages apparemment.
Ils ont envoyé un porte-avions,
un bateau.
Le Clémenceau. On nous a envoyé des avions. Peut-être qu'il va avoir la guerre mondiale.
Ça va être grand.
Ça va être un désastre.
Mais il ne pourrait pas envahir toute la Terre parce qu'il a tous les pays contre lui. Parce qu'il a tous les pays contre lui.
S'ils se battent dans le désert, ça ne va pas.
Pas dans
le
désert.
Longtemps. Ouais. Ceux qui ne sont pas habitués. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et ceux-là, sans savoir, nous regardent passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui, pour tes grands yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour.
Louis Aragon, 1897-1982.
Comme si on était à l'école et on est au théâtre, Tamara El Saadi. Et juste avant cette interprétation de Aragon slash Brassens, on entendait un extrait d'une émission de 1990 où des enfants essayent comme ça à la fois de déchiffrer et d'expliquer ce qu'ils comprennent de la guerre du Golfe. Et pour qui a grandi dans les années 90 en France, il y a tout un imaginaire extrêmement embrouillé autour de la guerre du Golfe. Moi, je sais, quand j'étais enfant, la guerre du Golfe, pour moi, c'était aussi la guerre du Golfe, le sport du Golfe. Enfin, vraiment, je voyais, j'imaginais comme ça, à partir de choses que j'entendais de manière très brouillonne à la télévision, à la radio, la guerre du Golfe, quoi. Tout ça pour dire que dans la pièce, il y a aussi l'idée que petit à petit, on déchiffre le monde, justement. Et c'est important que les années passent devant nos yeux, dans place, parce que petit à petit, les choses, elles se font de plus en plus dures, mais aussi de plus en plus fines. Est-ce que vous diriez cela?
En fait, c'est que moi, ce que j'ai voulu faire, en fait, en dépliant un peu les événements géopolitiques, c'était de, grâce à ces événements, marquer le temps qui passe. C'est-à-dire, qu'est-ce que Yasmine vit en France, et qu'est-ce que l'Irak vit en parallèle? Du coup, voilà, la pièce est ponctuée par, comme ça, des flashs. On a des informations de où est-ce qu'on se situe. Première guerre du Golfe, embargo en Irak, deuxième guerre du Golfe. Et en fait, comment on traverse son enfance, son adolescence en France, dans un pays en paix, abondant, alors que on est censé être ailleurs. Qu'est-ce qui se déroule? Comment on vit avec? En fait, on est comme en coexistence en permanence. Et en fait, c'est ça que j'ai essayé de mettre en place. Encore une fois, c'est une présence-absence, c'est-à-dire comment on coexiste alors que on est face à une tragédie géopolitique internationale, un génocide au long cours. Comment on vit? Et en fait, c'était important pour moi de faire entrechoquer comme les deux espaces. C'est-à-dire que, par exemple, elle est en plein milieu de ses amis pendant l'adolescence. L'adolescence, c'est une période extrêmement dure. On vit des trucs hyper violents. On dit « Ah, c'est des problèmes d'ado ». Mais attendez, les problèmes d'ado, c'est quand même... C'est très grave à un niveau émotionnel. C'est hyper dur. Mais si on le met à un endroit relatif, OK, pendant ce temps-là, il y a 100 000 enfants par an qui meurent en Irak. Et en fait... Comment coexiste avec ces deux données en soi, quoi.
D'autant plus que ce que vous montrez, c'est que ce sont des choses qui résonnent encore différemment dans le corps des parents et dans le corps des frères et sœurs. Il y a je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un écartèlement qui passe aussi par leur place à eux.
Bah eux, comment... Bon, le focus est mis sur elles, parce que l'idée, c'était de montrer cette coexistence entre elles, l'évolution de sa vie et l'évolution de l'Irak. Mais eux, effectivement, chacun porte l'Irak avec lui de façon différente parce qu'ils connaissent l'Irak mieux qu'elle, ou en tout cas un autre endroit qu'elle. Elle connaît l'Irak de loin. Eux, ils connaissent l'Irak de dedans, de son histoire. Et du coup, pour le coup, comment le passé a déterminé leur présent et leur perception du monde. C'est comme ça que l'Irak existe en chacun, et c'est des générations différentes. C'est-à-dire pour la mère, c'est la montée du régime Baas et de la dictature de Saddam Hussein. Pour le père, ça appartient à une autre sphère. Pour la sœur, c'est l'arrestation du père. Pour le frère, c'est la guerre avec l'Iran. Enfin, voilà. Donc aussi, toute l'histoire de l'Irak est clairsemée dans les mémoires des autres membres de la famille. Ouais.
On va écouter, si vous voulez bien, le metteur en scène Peter Brook parler du vide.
Alors pourquoi le vide ? Je crois que c'est parce que la vie, telle que nous le vivons, a, je crois, une caractéristique qui est la même pour tous les hommes, partout. Elle est trop compliquée. Pour comprendre, même pour mieux vivre, pour mieux sentir, quel que soit l'aspect, si c'est le programme d'une journée, si c'est la question des relations, si c'est les difficultés, nous vivons d'une manière trop compliquée. Et d'une certaine manière, ce qui compte, si on dit l'essentiel, qui est un grand mot un peu prétentieux, mais si on dit ce qui compte pour chacun individuellement, en tant que groupe, en tant d'être humain, c'est quelque chose qui risquerait facilement d'être noyé par un excès de détails. Alors là, on peut prendre ça de plusieurs manières. On peut dire qu'il y a un excès d'anecdotes, un excès de superflu. Il y a cet excès. Alors, si le théâtre est là pour refléter, comme on dit, pour représenter la vie d'une manière ou d'une autre, il est clair que la grande différence entre la vie en dehors du théâtre et la vie à l'intérieur du théâtre est que l'intérieur du théâtre, cette même vie, soit vécue d'une manière moins compliquée.
La vie, c'est trop compliqué. Il faut aller au théâtre pour la clarifier. On est en 1986. Peter Brook, metteur en scène. Tamara El-Saadi, si on essaie de décrire un petit peu le plateau ou les plateaux sur lesquels se joue Place, ça ressemble à quoi?
Un espace vide. Je dois avouer que moi, j'aime beaucoup Peter Brook parce que c'est un faiseur de théâtre qui me parle beaucoup. J'avoue que j'aime beaucoup les scénographies légères. Effectivement, je travaille place, c'est une poignée de chaises et du sable. J'aime beaucoup cette idée de décor-objet, comment avec un seul élément on peut construire des images et ça devient comme des points de fuite de l'imaginaire et ça active l'imagination du spectateur qui du coup, il voit ce qu'il a envie de voir. C'est comme si on lui traçait les choses en pointillé puis on lui laissait faire les liens. Et j'avoue que je suis très partisane de ce théâtre un peu artisanal, entre guillemets, parce que ça convoque les imaginaires. Et justement, ça dénude tout ce qui est compliqué, quoi. Ça évince la complication.
Mais pas la complexité.
Mais peut-être pas la complexité, ouais.
Parce que vous dites, finalement, c'est aussi une ouverture à la pluralité des sens et des significations. Moi, j'ai parlé de ces poignées de sable qu'on jette et qui peuvent brouiller la vue, mais ça peut être aussi des noms d'opérations, Tempête de désert, qui est une opération militaire menée en Irak. Ça peut être aussi un paysage d'un seul coup. Ça peut être, je sais pas, le sable du... Comment il s'appelle celui qui endort les petits, là, le marchand de sable. Enfin voilà, ça peut être plein de choses de cet ordre-là, et on sent que c'est très ouvert ce que vous proposez en ne proposant entre guillemets que du sable.
Oui. C'est qu'en fait, l'idée, c'est pas de faire de l'esbrouf et de faire un truc conceptuel. C'est parce que moi, j'ai une idée très précise. Moi, ce sable, il me raconte des choses très très précises. J'ai une image très claire. Mais ça me va très bien que les spectateurs, ils voient d'autres choses. C'est drôle parce que dans les bords plateaux, j'en ai fait vraiment beaucoup.
Les bords plateaux, c'est des moments après ou avant le spectacle où on est en discussion avec les spectateurs.
C'est ça. Et je pense que vraiment sur les... J'en ai 3-4 de bord plateau où la première question, c'est qu'est-ce que c'est le sable ? Et c'est drôle comment les gens ont envie du coup de donner du signifiant pour... Et je réponds du coup à ce que j'ai voulu faire, mais souvent je dis c'est aussi tout ce que vous voulez en fait. Et tout ce que vous voulez, ça me va.
Et c'est quoi sinon?
Qu'est-ce que moi j'ai voulu faire? Vous voulez savoir? Ben en fait, c'est que du coup, il y a des émanations de sable qui sortent des figures, des personnages de la famille. C'est parce qu'en fait, j'ai conçu l'espace du plateau comme l'espace mental de Yasmine. Et en fait, ce n'est pas vraiment... C'est pas les vrais... C'est pas vraiment les membres de sa famille qui sont présents sur le plateau, mais c'est la représentation qu'elle en a. Et en fait, du coup, ils sont comme... ils s'effritent, en fait. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se décale avec ce sable qui apparaît un peu de manière magique. Bon, ça m'amuse aussi de faire ça. Tout d'un coup, fait, oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça sort d'elle? Mais c'est quoi? ça m'amuse beaucoup. Et ça fait un peu signe de quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Et puis, à un moment donné, il y a une image comme ça de beaucoup de sable qui raconte en fait les moments d'effondrement et de bombardement. Voilà, parce que pendant les bombardements, une des premières choses qui s'effondre, c'est les toits. Donc j'ai voulu parler de ça. Et c'est évidemment aussi les tempêtes de sable qu'il y a beaucoup en Irak. Et cette matière, en fait, qui pénètre tout et qui s'infiltre jusque dans les esprits, quoi. Mmh. Voilà, c'est pour ça que c'est un élément qui était important pour moi. Voilà.
C'est un élément qui est arrivé rapidement dans votre travail ?
Au moment de la maquette, non. Mais en fait, quand on a joué Impatience après...
Le festival.
Ouais, qui est le festival. Eh ben, oui, pour le festival, j'ai pas pu faire cette chute de sable parce que l'espace ne l'autorisait pas. Mais le fait que ça émane des personnages, ouais, à l'image, m'est venu très vite, ouais.
Notamment, vous le disiez, parce que ça fait des personnages qui sont là, ses propres fantasmes, le fantasme d'un frère, le fantasme d'un père, le fantasme d'une mère, douloureuse, peut-être on pourrait dire deux, trois mots de ce personnage-là. Ça nous dit, en effet, encore, ça nous tire du côté de l'enfance, pas que de l'imaginaire, aussi de qu'est-ce que c'est d'avoir un père, une mère, un frère, ça dit aussi ces choses-là. Peut-être deux mots avant qu'on poursuive dans les archives sur la place de la mère.
Alors, la place de la mère, pour moi, elle est très, elle représente beaucoup de choses. C'est que c'est effectivement cette figure de cette femme qui, en fait, a été beaucoup trop, a été tordue par la violence qu'elle a traversée. Le fait que tout d'un coup, elle a fait une obsession sur son mari, en fait, c'est arrêté. Elle vit dans des fictions qui sont très limitées, qui se coupent de plus en plus de la réalité. Mais c'est aussi une superposition de la figure de la mère et de la mère patrie. C'est-à-dire qu'elle représente une charge de culpabilité. Parce qu'elle culpabilise beaucoup ses enfants, tout ça.
Reste avec moi.
Voilà, il faut pas que
reste
tu partes.
Reste attachée à moi, il voilà. Faut pas que tu partes. Évidemment, ce n'est pas que la mère, c'est aussi l'Irak ou même une idée générique du pays d'origine d'ailleurs.
C'est ça, à la fin elle dit « tu te trompes de place, ta place est auprès de la douleur de ton pays ». Mais encore une fois, c'est pas ce qu'elle dit. Mais c'est les intentions que Yasmine impute à ses personnages et comment elle les perçoit. Les personnages en présence, c'est les projections de Yasmine sur c'est des figures, comme vous dites, qui sont fantasmées. C'est le filtre de notre subjectivité, de sa subjectivité. De certaines situations, elle en a déduit ça. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est les intentions de ces personnes en vrai? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle les a entendues de cette manière.
On le disait en introduction de cette discussion, il est beaucoup question des langues qu'on parle, qu'on ne parle pas, de celles qu'on apprend à l'école, de celles qu'on oublie. À ce propos, on va écouter George Steiner.
Il y a un moment merveilleux. Le jeune Marcel Proust est en train de traduire le grand critique anglais, le grand philosophe de l'art, Ruskin. 7 ans de traduction. Il connaît très peu d'anglais, Proust. Alors, la nuit, sa maman merveilleuse fait un premier brouillon. Elle avait un anglais superbe. Le met sous la porte. Et que nous dit le jeune Marcel? L'anglais est ma langue maternelle. Et c'est une leçon très, très importante. Je n'y crois pas aux langues maternelles.
France Culture. Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Tamara Al-Saadi.
C'est en 2003 et dans les entretiens à voix nue sur France Culture que l'écrivain et critique littéraire Georges Steiner dit « Je ne crois pas à la langue maternelle ». C'est pas souvent qu'on entend ça. Dans la suite de l'archive, ensuite, il cite différents pays où on grandit de fait toujours avec plusieurs langues maternelles, des langues d'éveil. Il cite aussi, dans mon souvenir, les manuscrits de Samuel Beckett en disant que c'était toujours une sorte de mélange, peut-être appartenant à son inconscient, entre son français, son anglais et même un peu d'italien. Il cite Borges, évidemment. En tout cas, il fait cette déclaration comme ça, à la fois discutable et je trouve tellement intéressante, cette idée de ne pas y croire. Qu'est-ce que ça vous inspire au regard du texte que vous avez écrit, Tamara Al-Saadi?
Moi, ça m'inspire beaucoup déjà, ça me soulage de l'entendre. Ça me fait vraiment du bien.
Merci Georges Steiner.
Merci beaucoup. Je vais d'ailleurs courir à écouter cette archive en entier. Moi, je pense qu'en fait, tout est récit, tout est croyance. Et en fait... c'est probablement la charge symbolique qu'on donne aux choses qui les rendent actifs, qui font qu'elles agissent. Il s'avère que dans ma trajectoire à moi, la langue maternelle a une charge symbolique extrêmement lourde et extrêmement forte, positive et négative, de par le fait que moi, je l'ai chargée, en fait. Oui, probablement qu'elle n'existe pas pour celui qui ne veut pas y croire, et il a bien de la chance. Je dirais ça parce que ça doit libérer de beaucoup de choses. On y impute beaucoup un endroit de loyauté, de maîtrise d'une culture, de revendication d'une appartenance.
On lui demande beaucoup à Yasmine dans la pièce. Et tu parles arabe ? Et vous parlez arabe ? Que ce soit dans une cour d'un collège ou que ce soit au bureau de l'administration.
C'est beaucoup demandé. C'est comme si, en fait, évaluer sa connaissance de la langue va permettre d'évaluer... son niveau d'assimilation, en fait. Donc elle se justifie en disant non, je sais pas lire, je sais pas l'écrire, comme s'il fallait se justifier justifier de méconnaître sa langue maternelle pour être naturalisée. Ce mot est tellement terrible. Après, j'ai envie de vous dire que je suis d'accord avec Georges, je veux bien que la langue maternelle n'existe pas. Mais par contre, je crois pas que les mots n'ont pas de charge. Je crois peut-être pas à la langue, je crois peut-être aux mots. Et quand on n'arrive pas à nommer certaines choses, elles nous échappent. Et en fait, parfois, on peut nommer certaines choses avec... Il n'y a qu'une langue qui sait nommer. Et quand on ne sait pas nommer ces choses très précises avec cette langue, ça frustre énormément. Donc, je crois à cet endroit de nomination, peut-être.
Il y a même des gens qui disent que ça empêche de vivre.
Ah ouais, ça empêche de vivre, ça crée... Enfin moi, en plus c'est drôle, je sais pas comment fonctionne l'esprit humain. Il y a des gens avec qui je peux parler en irakien de façon extrêmement fluide, sans me poser de questions, et avec d'autres je bloque complètement et je sais plus ce qu'il faut faire. Les mots ne me viennent plus. Je sais pas...
Alors qu'en français, pas du tout ?
Non. Et en fait, du coup, il y a vraiment c'est un miroir d'un endroit de sérénité dans certaines situations avec certaines personnes. Et il y a des gens avec qui je peux pas parler français. Avec mon frère, je peux pas parler français. Ça me gêne énormément.
C'est peut-être que ça existe alors, la langue maternelle. Désolée, Georges.
Je sais pas. Franchement, c'est une vraie belle réflexion. Je suis personne pour vous dire ça existe ou ça existe pas. Tout ce que je sais, c'est en tout cas ce concept à déterminer et à conditionner beaucoup de situations que j'ai traversées dans ma vie, moi. Voilà.
Et il n'est pas anodin qu'un des curseurs, qu'il s'agisse de la relation avec le père, qu'il s'agisse de la relation avec l'État français ou qu'il s'agisse de la relation avec elle-même, de ce personnage de Yasmine, soit la lecture. Parce que s'il y a une impossibilité à dire, il y a aussi parfois des impossibilités à lire, et la pièce commence comme ça. On disait tout à l'heure le peu de choses qui s'échangent manifestement avec le père, mais la lecture est un sujet central. Hein. C'est le sujet de quoi pour vous ?
Déjà parce que c'est vrai que mon père me demandait, il me parlait pas, mais il me demandait tout le temps combien de livres j'avais à mon actif. Ce qui en fait, avec du recul, est un peu stupide, parce que on peut lire plein de choses sans les comprendre en vrai. Mais pour lui, c'était, on n'avait aucun lien, et c'était vraiment la seule chose qui l'importait. Et moi, je comprenais pas vraiment pourquoi. Moi, j'ai compris plus tard. En fait, je pense que c'est aussi en lien avec le rapport aux langues, c'est le rapport à la communication et à l'apprentissage. Je ne peux pas apprendre l'Irak si je ne parle pas arabe. Donc effectivement, que ce soit langue maternelle ou pas, à un moment donné, si on a envie de rencontrer un système de pensée, il faut connaître la langue. Alors, si elle a un statut de maternelle, pas maternelle, j'en sais rien. En fait, finalement, c'est pas ça qui est grave. C'est qu'à partir du moment où, en fait, si on se coupe de la langue, on se coupe d'un endroit de compréhension, d'un mouvement de pensée, d'une histoire, d'une culture, d'un humour. Et du coup, ben, ça limite l'accès, en fait.
Ça limite l'accès, et je dirais, virgule, à soi aussi. Parce qu'une fois arrivée à l'âge jeune, de l'âge adulte, cette jeune Yasmine se rend compte que tout ça fait qu'elle a aussi peu accès à elle, ou que quand elle a accès à elle, elle y a accès avec beaucoup de violence, beaucoup de contradictions, on pourrait dire. C'est le lot de chacun et de chacune, c'est vrai. N'empêche que quand elle rencontre un jeune homme avec qui manifestement une partie d'elle a envie d'avoir une histoire, une rencontre, une histoire d'amour ou que sais-je, eh ben ça bloque parce qu'elle n'a pas accès à elle-même. Et une partie de cet accès à elle-même, bah, c'est ce que vous appelez, vous, l'Irak, avec un grand I, quoi.
Bah, en fait, lui, il tombe amoureux de son... Il voit ce qu'elle ne veut pas montrer. Et en fait, elle refuse. Elle n'admet pas qu'il est amoureux de quelque chose qui lui est essentiel. Parce que déjà, elle pense que les gens ne le voient pas. Et puis que de toute façon, toute son enfance, quand on a vu ça, on l'a rejeté. Donc en fait...
Ça, ce serait quoi ?
Bah, son origine, en fait. Et donc du coup, le fait qu'elle n'y croit pas, elle ne croit pas que en fait, son origine, je l'associe à son enfance, je l'associe à quelque chose qui lui est originel. Et en fait, elle n'a jamais rencontré sur son parcours quelqu'un qui était bienveillant et attentif à cette partie d'elle-même, étant donné qu'elle a passé sa vie à construire sa version française, qui sait être avec les gens, qui sait communiquer, etc. Et puis lui dit « Attends, mais moi j'aime bien là, la partie en toi qui est en galère, là que tu planques, c'est quoi ?» Et c'est pour ça qu'en fait, à partir du moment où sa version française à côté de ce garçon commence à prendre de la place... Du coup, le couple se sépare. Parce que là, elle a une incompréhension. Elle se dit qu'en fait, il n'a pas compris, qu'il n'a pas vu, et que s'il avait vu, de toute façon, il ne resterait pas. Donc, elle essaie de le repousser. Comme s'il mettait à mal son imposture. Et pour elle, son imposture, c'est une question de survie. C'est ce qui lui a permis d'être en France.
D'autant plus que c'est une imposture que, par ailleurs, si on peut dire les choses de cette manière-là, l'État français, en quelques bureaux, lui réclame.
Ça, c'est la déclaration de prise en charge, c'est très bien. Ça, c'est les trois dernières factures EDF. Ça, c'est votre acte de naissance irakien. Ah ouais. Et où est la traduction ?
Juste en dessous.
C'est un traducteur assermenté ?
Oui.
Ça, c'est les trois derniers avis d'imposition de vos parents. Ça, c'est votre carte d'étudiant. Vous êtes en quelle année ?
En deuxième.
Et ça, c'est votre carte actuelle.
Oui, et celle de l'année dernière est juste après.
Ah oui. Ça, c'est votre diplôme du baccalauréat. Ça, c'est les trois certificats de scolarité du lycée. Et ça, c'est les 1, 2, 3, 4... du collège, les 1, 2, 3, 4, 5 du primaire. Est-ce que vous avez vos certificats de scolarité de maternelle ?
Non.
Ben, ça compte dans la scolarité, vous savez.
Ah bon ?
Eh oui, en France, ça compte. Si vous les avez pas, votre dossier est incomplet.
Je ne comprends pas.
Vous devez revenir dans 3 mois avec votre dossier au complet. En attendant, voici un récépissé de cartes de séjour valable pour une durée de 3 mois. Ce récépissé ne vous autorise ni à travailler ni à quitter le territoire.
Et s'il y avait du sable en elle, le sable s'écroulerait. Tamara Al-Saadi, c'est un extrait de Place. C'est un extrait où on imagine un bureau de l'administration française. Ce n'est pas le seul moment qui met en scène ce dépôt répétitif de pièces photocopiées par trois. Ils ont quoi comme place, c'est le cas de le dire, ces moments-là, dans l'écriture de la pièce ?
Alors la première chose, c'est que c'est vraiment des échanges qui sont reportés mot pour mot. que j'ai vécu. Ce certificat de scolarité de maternelle m'a vraiment été demandé. En fait, c'est les moments, je pense, les plus traumatisants pour moi, dans le sens où j'ai été à la préfecture de police très jeune, quand on arrivait en France. Il y a même un moment donné, donc c'était pendant la première guerre du Golfe, on était avec toute ma famille, et là, au guichet, ils nous ont dit que ma famille pouvait rester, mais que les deux plus jeunes devaient rentrer. Donc mon frère et moi j'avais 5 ans, et mon frère en avait 12. Et en fait, ça fait très peur. Enfin, et en fait, à chaque fois que je revenais à la préfecture, on me mettait face à ma supercherie. C'est-à-dire qu'on me rappelait que j'étais sur un siège éjectable et que j'avais beau être plus française que les Français, ne plus connaître ma langue maternelle, ne plus connaître... Enfin voilà, avoir totalement grandi, être totalement assimilée. Tous les 9 mois, j'étais convoquée et on me disait « Bon bah, vous avez un titre de séjour temporaire. » Ce qui est assez dur parce que séjour, c'est déjà temporaire, mais on met par-dessus temporaire. Enfin, c'est étonnant comme intitulé de document.
En tout cas, c'est très précaire.
C'est très précaire et puis on me le donnait pas, on me le renouvelait pas, donc on me donnait un récépissé qui était en fait un papier... Même sa texture était précaire, en fait. Et en fait, c'est très violent, en fait. Symboliquement, ce que ça représente pour soi, c'est comme à chaque fois, vous vous construisez, et puis en un rendez-vous, on vous déconstruit. Et hop, il faut recommencer, et on passe son temps à essayer de ramasser les morceaux, quoi.
En vous écoutant, je me dis qu'il faut vraiment qu'il y ait par ailleurs des choses très très solides qui tiennent, non ?
Pour pas s'effondrer ?
Mm-hmm.
Ouais. Ouais, il y a des... Ouais, probablement.
Ça n'empêche aucun effondrement, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je rends comme ça hommage à l'espèce de folle endurance des personnes qui l'ont vécu et qui le vivent encore.
Bah, déjà, moi, j'ai aucun mérite dans le sens où je viens d'un milieu d'élite. Mes parents avaient de l'argent. J'ai toujours dit que c'était mon père qui avait acheté mon intégration en France. J'ai grandi dans le 15e arrondissement de Paris. J'ai un capital matériel et culturel énorme. Alors sans doute que ça aide. Probablement, si je ne l'avais pas, pas sûr que j'aurais tenu la distance. Je suis pas du tout certaine de ça. J'ai eu accès à des lycées privés, à Sciences Po Paris, etc. À cause de ça et grâce à ça. J'ai aucun mérite là-dessus. Quand on est aujourd'hui... En plus, c'était dans les années 90, et déjà, c'était compliqué. Mais là, aujourd'hui, quand on est réfugié politique en France, je pense que c'est encore une autre paire de manches pour déjà un peu moins le percevoir, parce que j'accompagne des réfugiés à la préfecture, etc. On n'est plus sur le même délire, là. Il y a quelque chose de très frontal dans la violence qui est subie. Et si on n'a pas un peu des appuis vraiment matériels, hein, derrière vous, je pense que c'est... On peut pas passer, c'est impossible. Il faut avoir des nerfs d'acier ou je sais pas.
Je sais pas si vous entendez, mais dans l'enregistrement de la pièce qu'on a diffusée, Tamara El Saadi, au moment de la réclamation du certificat de scolarité de maternelle, il y a un rire.
Oui.
Et c'est vrai que pour être une des scènes les plus violentes, il me semble, les plus frontalement violentes de votre pièce Place, c'est aussi une des scènes qui fait éventuellement un peu de place à une forme d'humour,
ouais.
ou de décalage. Est-ce que c'est parce que c'est là où ça fait plus mal qu'il faut être le plus armé de cela ?
Bah, je sais pas vraiment, c'est juste que moi, c'est rire parce que les gens rient toujours à cette réplique. Vous imaginez pas le bien que ça me fait. Je vois encore cette dame, j'ai encore son visage, c'était en... Cette rencontre que j'ai faite, c'était en 2005, quand j'ai vécu cette situation. Je peux vous dire encore jusqu'à comment elle était habillée. Et je la vois sortir, dire « Attendez, elle revient » et elle me dit « Vous avez votre certificat de scolarité de maternelle ?» Et je ne comprends pas ce qu'elle me dit, tellement ça me paraissait énorme. J'étais arrivée avec 18 certificats de scolarité de CP à première année de fac. C'est drôle parce que les gens rient le plus dans le spectacle sur tous les endroits qui sont réels, dans les endroits d'abus, de racisme, d'exclusion. Et en fait, ça me soulage énormément que les gens rient, parce que je me dis « Ah, je suis pas folle, alors... » C'est vrai qu'on bascule dans l'absurdité, qu'il y a des espaces de vie qui sont vraiment absurdes. Et je trouve que... vous parliez de sauver, bah, ces rires, pour moi, ils sont vraiment salvateurs, quoi.
Parce qu'ils disent que c'est fou, en fait.
Oui.
Ils disent qu'on est dans un texte de Kafka, ils disent que c'est du côté de la folie.
Bah, ils disent surtout qu'ils pensent toujours que c'est la fiction. C'est-à-dire les moments du guichet ou le moment du dîner avec les parents d'Alexis quand le père, le fils demande à son père « Papa, est-ce qu'on a de la famille arabe ?» et que le père répond « Ne m'insulte pas ». C'est une situation qui m'est également arrivée et les gens rient très fort. Et toujours, on me dit « Dis donc, ça c'est un peu abusé quand même, t'exagères. » Ce qui est drôle, parce que les moments où les gens trouvent que c'est exagéré, c'est toujours quand j'ai été extrêmement fidèle à la réalité.
J'ai constaté que les écrivains, plus particulièrement les poètes, racontent leur propre histoire. Ils racontent des histoires subjectives en leur nom propre et non pas au nom de la communauté, comme ça avait pu être le cas pour la génération précédente, la mienne. Et en ce sens, je pense qu'ils établissent un lien plus fort avec la modernité poétique et littéraire, aussi bien dans le monde arabe qu'en dehors de ce monde arabe. Et ce, parce que le discours collectif aujourd'hui ne se prête plus à la poésie, comme ça a pu être le cas dans les années 50. Aujourd'hui, les poètes parlent d'eux-mêmes, parlent de leurs problèmes existentiels, de leurs secrets. Ils ne parlent plus au nom de la collectivité ou de la communauté. Mais je dirais que la somme de ces voix individuelles va constituer la voix collective. Chacun raconte sa propre histoire et d'une certaine manière, sans que ce soit délibéré, ces gens racontent l'histoire collective de la Palestine. C'est comme si chaque autobiographie constituait et reflétait d'une certaine manière ce qui est en dehors de la personne qui parle. C'est comme si toutes ces voix individuelles reflétaient le moi collectif, si vous me passez cette expression.
On est en 2004, l'émission Radio Libre, et c'est la voix de l'écrivain et poète Mahmoud Darwish qui dit, regardant la jeune génération d'écrivains qu'il lit et qu'il suit avec intérêt à ce moment-là, qu'elle passe par l'expression extrêmement personnelle pour en fait porter quelque chose de plus collectif. En introduction de cette conversation, Tamara Al-Saadi, j'ai dit qu'il me semblait que l'impasse que vous mettez en scène dans Place est une impasse dans laquelle peuvent se retrouver beaucoup de personnes. Pourtant, vous le disiez à l'instant, il s'agit parfois de retraduire mot pour mot des situations qui vous ont été extrêmement intimes. Est-ce que vous croyez à ce mécanisme-là ?
Ouais. Oui, j'y crois totalement. En fait, moi, je parle de cet endroit de difficulté, mon endroit de difficulté. Moi, je crois que souvent, l'intime est l'espace du commun, malgré ce qu'on peut croire. C'est-à-dire, quand on croit qu'on est vraiment tout seul à vivre quelque chose, là où ça fait le plus de mal ou même le plus de bien, un endroit qui nous est très singulier, quand on arrive à nommer d'une façon ou d'une autre ce vécu-là, c'est génial ce que ça provoque chez les gens parce qu'on trouve toujours des gens qui vous disent « Mais moi aussi !» Et c'est là où ça crée une complicité qui est si belle, en fait. L'intime, pour moi, fédère beaucoup. Et le théâtre permet ça de fédérer. Et j'ai beaucoup de spectateurs. C'est touchant parce qu'on me dit « Oh, moi, j'ai rien à voir avec l'immigration », comme s'il fallait se justifier. Et ils me disent « Et pourtant, je me suis beaucoup identifiée. » Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je dis « Mais c'est parfait. » C'est très bien que vous...
Bah, notamment parce que ce que je rappelais aussi tout à l'heure, c'est que quand il s'agit tout de même de continent d'enfance ou de continent de ce qu'a été la vie des parents ou des grands-parents ou de ce qu'ils ont laissé ou cru pouvoir transmettre, c'est quelque chose qui est exil ou pas exil, migration ou pas migration, absolument universel.
Bah oui, on a tout ça en commun, on est des traversées humaines, quoi. Et du coup... Ouais, c'est vrai que c'est assez chouette de tout d'un coup des gens qui se reconnaissent, qui n'auraient pas parlé une cacahuète là-dessus et qui tout d'un coup bah, comprennent mieux votre expérience en tant qu'étrangère parce qu'ils voient une identification claire. Ils disent « Ah, ça fait ça, je vois le goût que c'est. Je ne pensais pas que ça avait ce goût-là. » Et ouais. C'est très bien ce que vous dites.
Un grand merci, Tamara Al-Saadi. Ça s'appelle Place, donc ça a pas mal voyagé déjà. On pourra retrouver toutes les dates sur notre site, mais aussi sur le site de la compagnie La Base. On pourra aussi trouver tout le nom des interprètes. Mais je dis quand même que du 7 au 10 janvier, vous serez à la Comédie Saint-Étienne. Du 21 au 23 janvier 2020, à la Comédie de Reims. Du 28 janvier Non, juste le 28 janvier au Vivat, à Armentières, le 31 à Chelles, etc., etc., Alfortville, Toulon, Dôme de Gascogne, etc. Merci beaucoup.
Merci à vous.
There are places I don't remember. There are times and days they mean nothing to me. I've been looking through some of them old pictures. They don't serve to jog my memory.
I'm not waking in the morning, staring at the walls these days. I'm not getting out the boxes spread out all over the floor. I've been looking through some of them old pictures.
À la prise de son, c'était Florent Bujon. Ce soir, à la réalisation, Milena Hellig. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Lucie Riandet. C'est évidemment une page, Par les temps qui courent, sur franceculture.fr. Et pour ceux qui n'étaient pas là au début, il y a un petit endroit pour nous écrire. Vous êtes absolument les bienvenus et on sera un plaisir de vous répondre le plus généreusement possible, notamment à propos de la grève en cours en ce moment à Radio France. J'ai aussi un compte Twitter personnel. Voilà, tous les messages dans un instant, 22h. Sûrement le journal sur France Culture. Très belle soirée à vous.
Some things you have to lose along the way.
Times are hard, I'll only pick them out. Wish I was going back.
When times are good, you'll be glad you ran away.
You travel light.
You travel light.
Everything I've done.
You say you can justify. You travel. Say you have no room in that thick old head.
Well, it comes with the hurt and the guilt and the memory. If I had to take them with me, I'd never get from my bed.
There's a crack in the road where the rain falls through. That's the place you always decide to sit.
Yeah, I know I'm there for hours. The water running down my face.
Do you really think you keep it all that well hid?